Alors on va commencer. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à ceux qui nous écoutent sur les ondes. Donc ce soir, c'est la 4e édition au Hilton Garden Inn Le Havre de cette rencontre que l'on propose tous les premiers lundis de chaque mois. Alors on a eu différents thèmes. Là, on est sur le thème de l'entrepreneuriat et des réseaux. Donc on va échanger et je vais vous présenter et ils vont se présenter des invités de prestige, de renom, qui vont nous raconter un peu leur expérience. On a commencé les différents thèmes et on a fait un peu de culture, comme c'est dans l'ADN de Radio Girafe. On a fait aussi du sport avec des sportifs de haut niveau et avec l'hôtel Garden Inn au Havre, Hilton. On a voulu mettre en place ces événements pour que chacun puisse venir prendre la parole et échanger autour de différents thèmes tout au long de l'année. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. On est ensemble pour échanger pendant une petite heure. Je vais vous présenter un peu nos invités pour commencer. Et le thème de ce soir, on parlait de l'entrepreneuriat, c'est entrepreneuriat et réseau. Et sur le thème de l'entrepreneuriat, on va parler des rêves, des risques et quelque part de la réalité qui se cache derrière les rêves et les risques. Et chacun d'entre vous, vous allez contribuer à nous raconter un peu votre parcours. Alors, on devait avoir un plateau totalement autant équilibré, mixte homme-femme. On a parité, la parité obligeant. Malheureusement, on a deux de nos invités qui nous ont un peu fait défaut au dernier moment, mais on a la chance, et on va commencer par toi.
Un triple talent.
Voilà, d'avoir un talent extraordinaire qui... non, et une femme qu'on représente finalement beaucoup d'autres, puisque on a Anne Damois avec nous. Anne Damois, elle est, au-delà de son statut de chef d'entreprise, elle s'occupe aussi de femmes du MEDEF. Donc, elle est aussi porte-parole des femmes au sein du MEDEF. Donc, Anne, est-ce que tu peux te présenter rapidement? On va faire un petit tour de table pour que nos auditeurs puissent faire un peu connaissance avec vous. Alors, Anne, qui est Anne Damois?
Très rapidement, Anne Damois, donc j'ai créé mon entreprise, donc je suis entrepreneur,
oui.
J'ai créé mon entreprise il y a 16 ans en partant de zéro, donc from scratch, qui est spécialisée dans le négoce de robinetterie industrielle, matériel incendie. Donc c'est une société qui existe depuis 16 ans, je travaille dans le secteur de l'industrie, donc au niveau régional, et dans le secteur de la marine, là sur le national et l'international.
Donc un double défi, à la fois l'entrepreneuriat et en plus le secteur de l'industrie.
Oui,
ce qui tout à fait. C'est quand même...
Tout à fait, rien ne me fait peur.
Bon, bah ça,
en fait,
bah c'est ça, on va le découvrir.
Il y a une parfaite inconscience, je crois.
Bah, ça fait partie des thèmes qu'on va certainement aborder. Et vous êtes combien donc chez ADTS?
Actuellement, on est 6-7 personnes, ça dépend.
Voilà. Donc spécialisé dans le négoce?
Oui, c'est un pôle commercial, pôle de vente en fait. Négoce, on achète, on revend... On fait évidemment du conseil technique, puisque ce sont quand même des produits, des organes de sécurité, des produits techniques.
D'accord.
Voilà.
Oui, puis tu nous parleras aussi peut-être un peu dans le cadre de nos échanges, de ton rôle auprès de justement de Family Medef,
parce que c'était... Oui, depuis un an.
On va continuer le tour de table avec Benjamin Dereau. Alors Benjamin, l'avantage que j'ai effectivement, c'est que je vous connais tous un petit peu. On a eu la chance parfois de faire quelques échanges autour de podcasts. Bon, à part certains, mais bon, je vais les découvrir avec vous. Alors Benjamin, tu es donc entrepreneur au Havre aussi, et tu vas nous parler de ta société. Alors qui est Benjamin Dereau? À ton tour.
Exactement, entrepreneur havrais. Donc j'ai créé mon entreprise en 2008 à 28 ans, et aujourd'hui je suis dirigeant d'un groupe qui opère dans différents secteurs. On a le Palais des Régates qui est un lieu de réception pour majoritairement les entreprises et quelques événements privés
qui sont
les mariages, qui se situent à cette adresse. On a aussi le restaurant Labis qu'on a créé à la sortie du Covid. Et on a des sociétés de conseil en événementiel, la société DP Events qui accompagne plutôt les entreprises, et Normandie Événements, les grands événements type Armada, Transat Jacques Vabre. Là, on va à la Route du Rhum au mois d'octobre. Voilà.
Donc, tu disais qu'il y avait un restaurant, il y a une partie restauration, et tu le disais tout à l'heure en préparant l'émission, que tu étais le bras gauche finalement des organisateurs sur toute la partie très opérationnelle, direction opérationnelle.
C'est ça, donc vraiment on a le restaurant et le lieu de réception donc, qui fonctionne, et je pense notamment fort à Lucie Guillot qui est ma compagne et aussi la directrice
C'est une histoire familiale.
Qui est devenue familiale, on va dire ça, et donc qui pilote, et c'est elle qui gère au quotidien, donc... Je pense fort à elle qui est en direct et moi je pilote au quotidien plutôt la partie événementielle où en effet on est plutôt bras droit ou bras gauche, en tout cas des grands organisateurs d'événements pour qui on arrive, c'est plutôt le poste qu'on appelle la direction des opérations et on vient mettre en place et accompagner, faire un peu l'assistance maîtrise d'ouvrage des organisateurs d'événements.
Et donc la date pour la date de création
2008. 2008, ouais, ça commence à faire.
C'est bientôt les 20 ans. On va enchaîner avec monsieur Hervé Drieux. Donc bonjour Hervé, bonsoir. Merci de te prêter au jeu de notre plateau. Alors qui est Hervé Drieux pour ceux qui ne le connaissent pas? Alors je sais que ça n'est pas légion, mais c'est intéressant quand même que tu te présentes et que tu nous présentes tes activités.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci de me recevoir. Donc, je suis Hervé Drieux. Je suis le créateur de ClimaJob et de 2H Intérim. J'ai créé ClimaJob en 2003, qui est un cabinet de conseil, cabinet de recrutement. Donc, nous mettons en relation les entreprises qui cherchent à recruter avec les personnes en recherche d'emploi ou d'évolution de carrière. On travaille surtout sur l'évolution de carrière. Et une agence d'intérim, intérim classique que j'ai créé en 2014, avec maintenant quatre agences, Le Havre, Dieppe, Rouen et Paris.
Donc il y a une extension sur Paris, ça n'est pas que Normand, tu travailles...
Exactement, et l'axe Seine est important, j'ai tenté aussi d'autres régions, mais pour l'instant on travaille vraiment sur la région Normandie, la région parisienne.
Il y a largement à faire, certainement, et on en parlera parce qu'effectivement, dans l'entrepreneuriat, les problématiques RH sont souvent des problématiques qui prennent une grande part dans le risque que l'on peut courir. On termine avec notre dernière invité, enfin on termine et on commence, hein, notre dernière invité, Fabrice Aspo. Merci Fabrice aussi d'être parmi nous ce soir. Alors,
merci
qui est
Raphaël.
Fabrice Aspo?
Alors, moi, je dirige...
Même si, nous, on se connaît bien dans le cadre de la radio, tu opères avec nous quand même.
Un peu plus, ouais. Oui. Moi je dirige un cabinet immobilier qui est dédié au monde de l'entreprise, des bureaux, des entrepôts, des locaux d'activité sur l'axe Seine également, puisqu'on est de Au Havre à Rouen, Port-Jérôme-sur-Seine et maintenant même Honfleur. Ça c'est pour la partie professionnelle. Et puis tu m'as surtout invité ce soir parce que j'ai la chance de présider pendant 3 ans les dirigeants commerciaux de France Normandie. Oui. Qui regroupe les 3 associations du Havre, de Caen et de Rouen-Dieppe. Ça représente un peu plus de 150 entreprises, 3000 salariés et quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça représente la force commerciale de ces entreprises. Les DCF, c'est un mouvement national, un peu comme l'ANDRH pour les ressources humaines, qui prône, qui fait la promotion de la fonction commerciale dans l'entreprise.
Et tu as pris des fonctions justement régionales, je crois.
Normandie, voilà.
Normandie, tu as pris toute la Normandie.
Enfin, ça représente les 3 assos des 3 grandes villes normandes.
Ouais. Très bien. Ben, c'est pour ça qu'on parlait de l'entrepreneuriat, on parlait aussi des réseaux. Et c'est vrai que les réseaux ont leur importance, le MEDEF, le DCF, et notamment aussi tous les réseaux qui viennent aider l'entrepreneur dans sa démarche. Donc je le disais en début, on parlait de l'entrepreneuriat, rêve, risque, réalité. Alors je voudrais savoir sur quelle base et comment vous avez chacun pris la décision à un moment donné, alors ou de quitter le salariat, ou en tout cas d'évoluer vers l'entrepreneuriat, et puis de savoir quel a été le moteur individuellement. Est-ce que c'était des envies de liberté? Enfin, je ne sais pas ce qui vous a poussé à un moment donné à dire je vais prendre mon destin en main et je vais me lancer. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être Hervé. Allez Hervé, toi qui a le verbe facile.
Moi, je suis issu d'une famille de commerçants. Pour partie, et d'une famille d'agriculteurs, donc mes oncles, et tantes et mes parents étaient à leur compte, et donc j'ai toujours souhaité un jour ou l'autre créer mon entreprise ou reprendre une entreprise familiale. L'entreprise familiale, ça ne s'est pas fait. C'est actuellement mes deux cousins qui gèrent les entreprises de mes grands-parents. D'un côté et de l'autre, entreprise qui existe toujours. Naturellement, à la sortie de mes études, je suis rentré dans des grands groupes. J'ai travaillé chez Panzani dans le groupe Danone. J'ai travaillé chez Orange Business Service. Et après 8 années de CAC 40 et une autre expérience ensuite sur la région parisienne, j'ai décidé, avec ma femme à l'époque, de rentrer de Paris au Havre et de créer...
Ça, on ne peut que t'en féliciter.
merci, mais de créer l'entreprise parce que j'avais envie d'y aller. Même si c'est difficile, que j'ai créé From Scratch aussi et qu'il a fallu s'accrocher pendant nombreuses années.
Et du coup, justement, la question de l'intuition de la création, c'était sur des domaines d'activité que vous connaissiez ou là, tu travaillais dans le recrutement déjà à l'époque. Est-ce que tu t'es posé la question ou est-ce que vous êtes tous posé la question à un moment donné de dire non, j'ai un autre secteur particulier.
Je continue pour l'instant, je vous cède la parole après, mais moi j'avais envie de créer, j'avais envie d'avoir mon entreprise et naturellement le service que je proposais en région parisienne n'existait pas sur le Havre. Et l'activité de cabine de recrutement, même si ça s'est démocratisé, c'est une activité que j'ai créée sur le Havre avec un marché très très entre guillemets très très faible, mais que j'ai réussi à créer en semant régulièrement.
Donc il y a une part d'intuition.
Exactement.
Tu t'es dit, il y a un moment donné, il va bien falloir que... C'est pas normal qu'il... Alors souvent, on se pose la question quand on entreprend, parce que quand on n'a pas de concurrence, c'est pas toujours bon signe. Et là, c'est aussi cette part de risque. Toi, Benjamin, aussi, c'est intéressant, parce que là, tu as créé ton groupe, il y a maintenant, on le disait, presque une vingtaine d'années, donc 2008, tu le disais en introduction. Quand tu as eu l'énergie de créer, c'était pas ton métier à la base ? Qu'est-ce qui t'a poussé à un moment donné à dire allez je quitte le confort de ce que j'aurais pu avoir comme chemin et puis me lancer dans l'aventure.
Alors j'ai bien aimé ce qu'a Hervé est revenu à la base, c'est-à-dire à un moment les parents et la famille. Alors moi je suis fils d'un assureur et en fait normalement on n'a pas vocation à être entrepreneur quand on est fils d'assureur. Étonnamment on est 5 frères et sœurs et sur les 5 il y en a quand même 3 qui sont entrepreneurs. Donc je ne sais pas en fait ce qui a fait qu'on était entrepreneur. En revanche je sais qu'après mon école d'ingénieur j'ai travaillé à Paris pendant 3 ans et j'étais pas heureux dans ma tour à la Défense et après j'ai toujours eu cette vision. Alors pour le palais des Régates que j'ai connu tout petit, moi j'ai eu la chance de passer mon enfance là-bas et je faisais de la sono aussi depuis tout petit, je fabriquais mes enceintes etc. Et je sais pas, j'ai toujours eu cette vision de faire, je faisais des soirées étudiantes là-bas, je les organisais et ça a été naturel.
Donc,
en fait
il y avait un contexte.
Il y avait un contexte et en fait ça a été naturel et je sais pas si j'étais entrepreneur ailleurs en fait. C'est-à-dire que j'avais une vision pour ce site, j'étais bien dans ce site-là, j'avais envie de faire des travaux pour le rénover et donc en fait c'est venu naturellement. Et après je dirais que le côté entrepreneur d'avoir plusieurs activités, il s'est fait plutôt par opportunisme et par envie de développer qu'avec une réelle stratégie derrière. Quoi.
Ouais, c'est-à-dire donc, qu'à un moment donné, on se lance dans le grand bain et puis c'est venu compléter les activités initiales. Mais, ouais. mais finalement, toi, tu es parti d'un rêve, enfin, en tout cas d'un projet physique qui était le
palais des Régates.
Le palais des Régates, et les activités sont venues se greffer autour.
Exactement.
Et toi, Anne, comment tu es passée directement, enfin, tu t'es lancée from scratch dans le...
Ouais, alors avant de... Je vais revenir sur quelque chose que tu as dit et qui m'a fait rebondir, c'est sortir du confort. Et moi, toute la période où j'ai été salariée, j'ai jamais été dans un confort. En fait, je me suis toujours mise en danger.
T'étais pas à ta place.
Je me suis toujours mise en danger parce que je voulais toujours évoluer, je voulais toujours développer, je voulais toujours faire différent et je me remettais beaucoup en question. Je remettais beaucoup en question l'entreprise qui m'employait. L'opportunité, ça a été en fait d'être directrice d'agence. J'étais directrice de la filiale France d'un groupe hollandais. Et à un moment, je me suis dit... je vais arrêter de pédaler pour rien, je vais leur demander de me vendre quelque part de cette filiale. Et les Hollandais m'ont dit, on te vend un contrat de distribution et 100% de la filiale. Je vais pas... Il y avait une petite entourloupe que j'ai très vite ressentie. Il y a eu 7 mois de négociation. Et le jour des négociations finales, j'ai dit que je ne rachetais pas. Donc je me suis au bout de 7 mois. 7 mois où en fait, pour caricaturer un petit peu, ils ont un peu vidé les caisses. Et donc je me suis retrouvée, j'ai dit non, et je me suis retrouvée sans emploi, sans travail, avec un huissier dans le bureau. Et là, je me suis effondrée quelques semaines. Et un matin, je me suis dit, j'avais monté tout le projet pendant 7 mois. Je vais créer, je vais partir de zéro, on verra ce que ça donne. Cette folie de dire, on verra, pas vraiment de plan hyper tracé, simplement on le fait, et je le fais, puis je verrai bien.
C'est pour ça que là, ça donne la notion, parce que finalement, tu avais commencé par un échec, l'échec d'une négociation qui s'est mal terminée,
oui.
Et tu as rebondi sur le fait de pouvoir te dire, je ne peux pas faire autre chose. Pas question que tu retournes dans le salariat.
Alors je vais être un peu parce que la vie nous apprend que chaque échec finalement c'est pas un échec, c'est une expérience, parce que pendant ces 7 mois, j'ai appris à disséquer un bilan, j'ai appris à lire une stratégie, j'ai appris à lire un refus et j'ai appris à voir clair dans un jeu de négociation. Donc c'est ce qui aujourd'hui fait que j'arrive plus à évoluer dans le monde de l'entreprise. C'est juste une expérience, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, pour moi, on n'est pas entrepreneur. On le devient, et on devient au fil des expériences. Et les expériences, ça peut être de grands succès, mais ça peut être aussi des très grosses gamelles. Hein. Donc, je le vis plus comme une expérience que comme un échec. Mais ça a été très douloureux. Très, très, très douloureux.
C'est pour ça qu'il y a une question qui est intéressante, c'est de savoir si on a, pour les profils d'entrepreneurs, si on a des jeunes qui veulent le devenir et qui veulent se lancer dedans, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est souvent en entreprenant qu'on arrive à apprendre plein de choses et qu'on a aujourd'hui peut-être un vrai sujet sur la formation. Puisque là, on va en parler, mais il y a l'IA qui arrive à grands pas. Il y a un problème des compétences, il y a un problème d'envie. Tu disais que, Anne, que c'était à force d'avoir travaillé sur ton sujet que finalement tu étais devenue compétente et que ça t'avait poussé à le faire. Est-ce que vous avez dans votre vision de l'entrepreneuriat, le fait de vous dire il va falloir qu'on change la formation, il va falloir que tout ça évolue ? Parce qu'on a tous, là autour de la table, on a plus de 40 ans. Je ne sais pas ce que ça va donner sur les jeunes. Non,
évidence.
À part Fabrice. Mais...
Pour moi, c'est une évidence que la remise en question et l'évolution, elle est plus que nécessaire. Et si on n'évolue pas et si on ne change pas, on meurt. Enfin, nos entreprises meurent. Hein.
C'est un vrai sujet sur l'entreprise. Quand on doit rebondir, comment est-ce que demain, on va se retrouver avec...
Oui, moi je vais exprimer une très grande fierté, c'est que les DCF en France organisent un concours étudiant qui s'appelle DCF Challenge, qui regroupe au démarrage 10 000 étudiants dans différentes écoles, plus ou moins des écoles de commerce, on va dire. Et grâce à ce concours, depuis 2-3 ans, alors déjà on amène quasiment chaque année des Havrais en finale nationale, mais c'est surtout que l'EMN avec qui on travaille a réfléchi à son cursus qui était tourné très marketing pour y insérer de nouveau des cours sur la fonction commerciale, sur la négociation, sur les méthodes de vente, parce qu'on peut faire le plus beau marketing du monde. S'il n'y a pas un commercial pour décrocher le téléphone, prendre un rendez-vous et être face à un client, ça ne sert à rien. Donc en fait, voilà, si on veut...
Sur les fondamentaux du commerce.
Voilà, être responsable marketing, c'est super chouette, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui pousse la porte, ça ne sert à pas grand-chose. Donc voilà, si on veut que demain, nos étudiants aient une envie d'entreprendre et de réussir, la fonction commerciale est au cœur, en fait, de la réussite, entre autres, parce que si tous autour de la table, on n'avait pas été poussé des portes pour faire signer des contrats, il ne se serait pas passé grand-chose.
Alors maintenant, la question, je suis d'accord avec toi, mais la question qui se pose, c'est sur le fait qu'il y ait une mutation quand même des activités. Alors il y a des activités, on parlait de l'événementiel, ça c'est sûr qu'une activité événementielle, elle réunit des hommes, donc ça peut difficilement être substitué par l'IA, mais dans les fonctions commerciales, on voit aujourd'hui beaucoup de choses changer, notamment sur les méthodologies un peu agressives.
Raphaël, j'ai appris une seule chose sur l'IA. L'IA ne me remplacera pas. Le concurrent qui utilise l'IA peut me remplacer.
Ouais, c'est
donc,
pas clair,
en fait, si dans notre quotidien, on intègre à bon escient l'IA au bon endroit, on pourra réussir à s'en sortir et à devancer nos concurrents. Maintenant, si on reste dans notre coin, quand on dit l'IA, c'est pour les autres, celui qui va l'utiliser va faire fermer ma boutique.
Oui, c'est pour ça. Mais ça nécessite quand même une vraie dynamique de curiosité. Hein. Non, le micro est ouvert. Hein.
Une petite histoire au sujet de l'IA. Dans les années 98, je suis allé voir un prospect qui m'a dit à l'époque, monsieur, Internet, c'est pas sûr que ça fonctionne dans les années futures. Et moi, je sortais de chez Orange Business Service. J'ai eu, c'est probable, mais pour l'instant, ça fonctionne. Et a priori, il y a des prévisions relativement fortes. Et donc, par l'IA, faut pas avoir peur de l'IA. Il faut bien comprendre que nous avons autour de la table de l'expérience. Nous ne sommes pas vieux, mais on a de l'expérience. Et on a connu des produits comme le Telex ou le Fax. Donc tout le monde autour de la table n'a pas connu le Telex ou le Fax, excuse-moi, Benjamin. Mais effectivement, il y a des révolutions à un instant T avec des nouveaux moyens de communication. Une autre petite histoire rapide et après je cède le micro, hein, mais quand j'étais jeune, j'écrivais mes propositions commerciales que j'envoyais par fax à une assistante à Nantes qui, elle, tapait ma proposition et me l'envoyait par chronopost pour que j'aille la délivrer à mon client. C'est un peu de la vieille histoire, mais c'était comme ça que je suis expérimenté. Et du coup, c'est pour ça que l'IA est un nouvel outil dont il faut s'emparer et on va aller plus vite, plus loin. Bon, on fera des choses différentes, mais l'IA, c'est super. Même si, effectivement, ça va supprimer certaines tâches qui on dit aujourd'hui qu'ont pas de valeur ajoutée. Malheureusement, on dit que ça n'a pas de valeur ajoutée, mais la saisie pure va probablement, avec la facturation électronique, par exemple, y a des choses qui vont disparaître et on fera autre chose.
Non, c'est pour ça. Là, je mettais l'IA au service de l'entrepreneuriat. C'était de regarder dans vos différents business si c'était effectivement un outil qui allait vous permettre de pouvoir accélérer le business, trouver de nouvelles opportunités, et de regarder vous dans le cadre avec vos collaborateurs. Enfin, je me rends pas bien compte en fonction de vos différents secteurs d'activité. Anne.
Alors moi, pour l'instant, l'IA c'est quelque chose de très positif. Ça me permet d'élargir ma zone de prospection. Ça me permet d'avoir une gestion plus accrue des avantages de mon entreprise. Enfin, vraiment, pour l'instant, c'est quelque chose de super.
Oui, ce que j'ai dit, mais c'est un vrai outil.
Ah ouais. Moi, j'ai absolument pas peur de l'IA. Faut savoir l'utiliser à bon escient et puis avec un peu d'intelligence. Mais pour moi, c'est une béquille. Et on va s'en servir.
Ouais. Alors finalement, l'IA va plus au service des entrepreneurs, j'allais dire de taille plus petite. Là où l'IA devient un vrai problème, c'est quand on a des gros groupes et qu'il va falloir nourrir la bête et comment la structure devra évoluer en fonction du nombre de personnes que l'on a. Donc c'est vrai que sur des...
Même chez les petits, hein. L'IA, aujourd'hui, moi, je réfléchis à des méthodologies de travail qui vont pour réduire la voilure au niveau RH. Hein.
Ah oui, donc...
Au niveau masse salariale. Hein.
Oui, donc on va avoir, on voit bien que dans les business et l'entrepreneuriat de demain, l'aspect humain sera moins présent.
Alors, en vrai, tout ce qui a été dit fonctionne et aujourd'hui, l'IA est un outil. En revanche, dans 5 ans... on ne sait pas ce que l'IA sera et ira peut-être beaucoup plus loin que ce qu'on est, la manière dont on l'utilise
c'est
aujourd'hui.
Probable.
En revanche, c'est vrai que ça nous fait gagner énormément de temps. C'est-à-dire que ce qu'on faisait, nous, on le voit en production et en calcul et en génération de plans, de 3D, de tout ça. Ce qu'on faisait en une semaine, on le fait en une demi-journée. Donc, en fait, ça nous donne une puissance de réponse et de travail qui est beaucoup plus forte. Donc, on a des super stagiaires et chacun a son super stagiaire et on avance. Et après, dans l'analyse financière aussi des business, notamment la restauration qui est un milieu qui est vraiment nécessaire où on a nos KPI tous les jours dans une analyse très forte et très pointue de ce qu'on sort aussi et de la manière dont on gère nos stocks. En fait, là, l'IA est très, 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 très puissante.
Oui, ça permet aux plus petits de se doter des outils des plus gros.
Exactement. Et dans le prévisionnel aussi. C'est-à-dire que maintenant, on commence à savoir, en fonction de la météo, des jours, des mois et tout ça, de savoir qu'est-ce qu'on a à produire en termes de poissons, en termes de commandes. Et donc, derrière, on commande mieux, on fait moins de gâchis et on produit mieux. Et donc, c'est très puissant, en fait, sur cette analyse de nos business et à côté de ça, sur le commercial, ça nous aide à être 10 fois plus performants et 10 fois plus rapides en termes de construction de réponses. Et ça nous apporte, et c'est des super nous en fait, hein, qui viennent nous aider à compléter. En revanche, aujourd'hui, l'IA toute seule n'est pas capable, en tout cas dans nos, en tout cas dans mon métier, n'est pas capable de produire si on ne lui a pas donné l'ordre et si on ne l'a pas bien prompté au départ.
Ouais. Et donc justement dans cette là on va, c'est plus le volet RH. Quand vous avez créé vos entreprises, c'était quoi ? Vous aviez une volonté d'indépendance d'abord, ou vous aviez une vision de dire je vais embaucher du monde, je veux être plus gros, je veux me revendre. C'était quoi le moteur au départ, au-delà de la liberté, de l'opportunité, parce que une fois que c'est fait, hein, on a compris que arriver à entreprendre c'est du hasard, mais une fois qu'on en est là, on peut avoir des ambitions. C'était quoi l'ambition autour de la table ?
Alors, en 2003, j'ai forcément commandé une solution de téléphonie fixe pour mon bureau. Donc là, pour ceux qui ne nous voient pas, qui sont à l'antenne, il y a Fabrice qui est assis à côté de moi qui rigole. Parce que forcément, en 2003, j'avais commandé 50 lignes de sélection directe à l'arrivée. C'est-à-dire que je savais...
C'était l'expression de ton ambition.
Je savais pertinemment que 6 mois après, nécessairement, on serait 50 dans l'entreprise. Bon, aujourd'hui, on est 8, 20, 25 ans plus tard, donc on a un peu évolué, mais on n'est toujours pas 50 sur les permanents. Donc voilà, je voulais dire, je me rappelle plus de ta question.
Non, la question, c'était dimensionner l'ambition. Toi, tu avais dimensionné ton ambition à 50 postes. Donc, non, mais c'est de savoir, c'est quand même le moteur de départ, parce que l'ambition, elle est aussi, elle amène à un autre sujet qui est l'argent. C'est que entreprendre, c'est une chose, et quand on entreprend, il faut aussi trouver des moyens. Est-ce que dans vos expériences individuelles, vous avez eu besoin de fonds, ou est-ce que vous y êtes allé progressivement ? Comment ça s'est produit ?
Alors moi, j'ai très clairement surdimensionné, je me suis planté financièrement, et ça c'est ce qu'on n'apprend pas en fait, en effet à l'école. On a beau faire à peu près les calculs et raisonner plutôt intelligemment, on essaye de... on se foire et on se rate, et j'ai bien aimé, et en effet c'est de nos erreurs en fait qu'on arrive à reconstruire, mais il faut
et pourtant Excel calcule correctement,
voilà. Mais non tout ça pour dire que le dimensionnement des équipes, le dimensionnement même des prévisionnels, de la manière dont on construit en fait l'avenir de l'entreprise est hyper important, mais on ne maîtrise pas tout. Et puis en effet sur l'humain, et en fait on a envie de se faire un peu plaisir et de parfois se dire c'est super, j'ai une boîte de 15, 20, 30, 50 salariés, et en fait on a besoin que de 5, et pas brûler les étapes en fait, et il faut marquer des paliers. Et donc dans la montée on va dire en force de l'entreprise, il faut passer d'une TPE à une PME, à une super PME, et éventuellement plus loin, mais il y a des étapes à faire. Et très clairement, je me suis planté à plusieurs reprises. Hein,
donc c'est vrai qu'on prend l'exemple parfois des startups qui montent et qui ont des valorisations incroyables, mais il faut quand même rappeler quelques chiffres, quelques grandes métriques. C'est que c'est pas le. Enfin, on se retrouve sur un taux de réussite qui est excessivement faible, puisque 9 projets sur 10 ne voient pas le jour au bout de 3 ans. Ce qui est quand même une donnée qui est encore une donnée réelle aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas mélanger l'entrepreneuriat d'entreprise avec l'indépendance. Être indépendant, c'est autre chose. Enfin, ça n'empêche pas qu'il faut avoir un profil entrepreneur. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce mythe en ce moment où tout le monde veut être entrepreneur, chef d'entreprise. Mais influenceur, c'est un nouveau métier, mais un métier d'indépendant. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de bien faire ce distinguo entre le chef d'entreprise et l'indépendant. C'est pas tout à fait la même chose. Et d'où la révolution de l'IA, c'est que des indépendants maintenant peuvent embaucher des salariés virtuels sans avoir à passer par un risque. Justement, le risque, est-ce que vous avez eu dans vos expériences diverses et variées peur ? Il y a eu un moment donné où vous avez eu peur de perdre ?
Ah moi j'ai perdu mes deux plus gros clients la troisième année. Pas de mon fait, mais un de mes plus gros clients, qui était le groupe Bourbon, a déménagé tous ses bureaux à Dubaï avec une stratégie d'achat en dollars et en Asie. Et l'autre était un armateur fluvial dont les subventions ont été coupées par l'Europe. Et donc, il a arrêté de construire des bateaux.
Ah oui, ça fait beaucoup la même année.
Et donc, la société démarrait. Elle n'avait que 3 ans. J'avais pas un gros matelas de clients. Donc, j'ai perdu 75% de mon chiffre d'affaires. Plus du doubleau de mes fonds propres. Donc, ceux qui entreprennent savent ce que ça veut dire. Ça veut dire la case tribunal de commerce. Et en fait, la quatrième année, la trésorerie a été emballée, embarquée, et donc j'ai été très bien accompagnée par la CCI du Havre, faut le dire. J'ai passé la porte du tribunal, je n'ai pas eu de procédure parce que j'ai été sauvée par une très grosse commande qui a sauvé l'entreprise, qui a relancé et qui a permis à l'entreprise de revivre. Mais ça a été une période assez noire parce que très 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 stressante. Et puis j'ai aussi appris qu'on met pas tous les œufs dans le même panier parce que j'avais qu'un banquier, j'avais qu'une banque. Et pour financer cette très grosse affaire que j'avais eue, la banque a refusé de m'accorder un petit découvert supplémentaire.
Donc c'est là où on voit l'importance des réseaux.
Il a fallu que je trouve d'autres solutions. Et depuis, j'ai 4 banques. J'ai pas qu'une banque, j'ai 4 banques. Et puis, la société a été sauvée. Mais donc, pour revenir à ta question, oui, j'ai eu très peur à ce moment-là. Parce que j'avais des salariés et j'avais plus peur pour mes salariés, en fait, du stress que ça allait leur créer que pour moi, parce que je me suis toujours dit que je m'en suis toujours sortie et que je m'en sortirais, en fait.
Est-ce que c'est pas une des qualités premières d'un entrepreneur, c'est de pas avoir peur de l'avenir?
Plus j'avance en âge, plus je me dis on a peur de l'avenir, mais que bon, je m'en suis toujours sortie et ça va aller, en fait, ça passe, ça va passer.
Donc il y a quand même un trait de caractère qu'on trouve souvent, c'est quand même des gens optimistes. Un entrepreneur doit être optimiste. Il y a eu d'autres frayeurs ou non? Ah,
frayeurs, je sais pas, mais j'ai créé en 2003 et en 2008 il y a eu la crise avec Lehman Brothers. Donc je commençais un petit peu à gagner de l'argent modestement. Au bout de 5 ans, on dit toujours qu'il faut 5 ans pour lancer une entreprise. Et effectivement, crise est arrivée. 2009-2010 ont été difficiles et moins de recrutement. Donc moi, sur un marché cabinet de recrutement, au moment où je commençais à sortir la tête de l'eau, c'était un peu difficile. Mais il faut se serrer les coudes, il faut maîtriser ses coûts, faire attention. C'est là où on apprend à gérer. Il faut gérer les finances, les clients, il faut le fonds de roulement, des choses basico-basiques, quoi, finalement. Mais avant de partir en vacances, on paye ses fournisseurs, on n'oublie pas les factures. Voilà, il faut faire attention à son train de vie, le train de vie de l'entreprise qu'on a créé, finalement. Notamment, avec les voitures ou les restaurants. Il n'est pas interdit d'avoir une voiture, il n'est pas interdit d'aller au restaurant, mais il faut faire attention. Voilà.
Il faut être prudent. La prudence, quand on entreprend, est aussi importante que la curiosité et le dynamisme. Benjamin, tu voulais intervenir?
Oui, pareil. Hein. Moi, 2013, donc deux ans, en fait, j'ai créé en 2008, mais on a lancé des gros travaux de rénovation du Palais des Régates en 2011-2012. 2013, techniquement, comptablement, je suis mort. Et là, c'est six mois pour essayer d'aller lever de l'argent. Donc là, en fait, sinon, c'est la banqueroute. Donc en effet, il y a la vie privée aussi en parallèle avec les enfants qui arrivent et tout ça à gérer. Donc beaucoup de stress et des sommes d'argent qui sont fortes. Donc en fait, il faut avoir aussi... J'ai eu de la chance, et là on revient sur le thématique réseau, c'est mon réseau plutôt personnel sur lequel en fait on a beaucoup travaillé sur la projection des 5 ans, et moi j'ai travaillé mon réseau pour essayer d'aller sauver la boîte et j'ai réussi à lever de l'argent, quoi. Sinon j'étais mort.
Oui, c'est pour ça qu'il faut pas, non plus. L'idée est une chose, la réalisation de l'idée en est une autre, et quand même le nerf de la guerre. Il faut quand même le préciser. C'est quand même à un moment donné un peu l'argent quand même. Tu disais toi Anne un peu en parlant de la banque, mais
Anne a employé un terme tout à l'heure qui est le terme les fonds propres. Moi, je vois des gens arriver qui viennent me voir pour louer un bâtiment, des locaux, des bureaux, etc. Et on a mis dans la tête un peu démagogiquement, à la tête des gens, qu'on pouvait créer une entreprise avec peut-être 1 000 euros. Mais vous arrivez avec 1 000 euros, le comptable il va vous en prendre 400 pour faire le business plan préparé. Hein. L'avocat il vous en prend 500 pour faire les statuts. Et vous avez pour 200 euros d'annonce légale. Donc vous démarrez avec zéro. Oui. C'est pas cher. Ouais, c'est des petites affaires. Donc on démarre l'activité avec zéro, donc on se plante.
Oui, donc faut insister là-dessus. Quelle que soit l'idée, c'est le BFR. Alors après, on peut avoir une bonne idée, mais Il faut effectivement des fonds de roulement et il faut de la trésorerie.
La banque peut être là pour partager le risque avec l'entrepreneur, mais si c'est plus la banque qui prend le risque que l'entrepreneur, à un moment donné, ils jouent pas le jeu. Ça, c'est pas leur métier non plus de prendre tous les risques. Donc, il faut mettre dans la tête aussi des jeunes ou des personnes qui veulent se lancer qu'à un moment donné, il faut mettre de l'argent sur la table pour s'assurer dans le temps et une pérennité, dormir tranquille.
Ou au moins se donner les moyens de pouvoir réussir. Parce que c'est peut-être ça aussi le sujet, quoi. Parce que lancer une affaire et effectivement se dire qu'on était à deux, on était à 2 ans ou à 3 ans, mal dimensionné dès le départ, c'est souvent un sujet qui est quand même compliqué. Aujourd'hui, si on reprend un peu le fil de ce que sera demain l'entrepreneuriat, quelle vision vous avez, vous, de l'entreprise? Est-ce que vos entreprises, si vous deviez les lancer aujourd'hui, vous les lanceriez de la même manière? Est-ce que vous pensez que le process serait le même? Ou qu'est-ce que vous feriez de très différent au regard de l'expérience que vous avez cumulée?
Si c'est la première entreprise, on la lancerait sûrement de la même manière. C'est l'expérience après qui fait que...
On regarde votre expérience.
Moi, je fais tout pareil.
Ouais, ça change rien.
Non, mais c'est fondamentalement, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que j'ai créé il y a 23 ans. Là, je suis en train de créer une petite activité dans le domaine des travaux qui va s'appeler Drieux Multiservice. Un peu de publicité, on a le droit ou pas?
Ça pose aucun problème.
Et donc... Donc voilà, et donc, le sujet, moi je regrette rien sur ma carrière. D'ailleurs, je pense qu'il faut jamais rien regretter d'une manière générale.
En l'occurrence, ma question, c'était pas le regret, hein. C'était de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, on repart de.
Je réponds, monsieur Pelfren. C'est-à-dire que, du coup, je regrette rien.
Je vous remercie, monsieur Drier.
Mais je regrette surtout rien, et s'il fallait refaire, je crois que je referais la même chose sur l'aspect professionnel. Et même s'il y a des difficultés, même s'il y a eu des difficultés, voilà, il faut foncer. Et l'entrepreneur de demain aura les mêmes difficultés que ce que nous avons tous connu là autour de la table. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut croire en son projet, il faut croire en soi.
La confiance en soi, c'est quand même un paramètre qui est quand même fondateur. Voilà. Hein.
Sans avoir le melon ou les chevilles, à un moment donné, il faut avoir envie de dire. Je vais y arriver. Donc, il faut croire en soi. Et puis, ne pas lâcher. Dans beaucoup de choses, c'est dans la difficulté. Dans la difficulté, parfois, on voit des gens qui tombent ou qui ne résistent pas. Dans la vie de famille, c'est pareil. Et donc, il faut se battre pour s'en sortir techniquement. Mais l'entrepreneuriat, je pense que. Il y aura toujours des entrepreneurs. Je pense qu'aujourd'hui, on a un système avec les jeunes. Là, tout le monde effectivement veut créer sa boîte. Moi, je trouve ça génial parce que on a besoin de gens qui ont envie d'y aller. Après, il y aura des déconvenus, mais ça, c'est...
Ça, on le disait, c'est statistique. En revanche, quand tu dis qu'on a envie, que c'est bien pour les jeunes parce que tout ça se mette en place. Il y a peut-être aussi un vrai travail à faire sur une refondation ou une réflexion sur la lourdeur administrative et tout ce qui va derrière, puisque on l'a tous vécu. Hein, et souvent, on s'aperçoit que l'administration, c'est froid comme de la glace. Hein.
Je reviens là sur ta question. Si on devait refaire, moi, j'évoque le dimensionnement d'une entreprise. Il faut bien le dimensionner. Tu l'as évoqué avec les 1000 euros, mais... En fait, en fonction de ce que vous allez faire comme métier comme entreprise, il faut vraiment bien se poser la question, en effet, du cash qui est nécessaire pour essayer, en tout cas, de se donner la chance de réussir. C'est pas parce que aussi on avait beaucoup de cash au début, donc c'est le dimensionnement que moi j'aurais revu. Et après, deuxième chose, savoir si je recommencerai aujourd'hui. Je me poserai la question et. Tu viens d'aborder le sujet par rapport aux lourdeurs. En fait, moi, sincèrement, je me casse la tête sur le pays ou l'Europe parce que dans laquelle on vit. En fait,
c'est une galère.
En fait, ça va parce que maintenant on est lancé, on est structuré avec un petit service juridique, un petit service comptable, et qu'on est plutôt bon et agile là-dessus. Et on a appris sur le tard avec nos différents métiers. À savoir répondre à tout ça, mais c'est trop complexe. C'est beaucoup trop complexe, beaucoup trop lourd. Et ça va, c'est de pire en pire. En fait, à chaque fois, on a toujours une lettre ou une nouvelle réglementation. Encore une fois, je ne suis pas le premier entrepreneur à dire ça. Tout le monde le crie. Mais je me poserais vraiment la question d'entreprendre dans... en tout cas en France, aujourd'hui, pour ces questions-là, moi.
Oui, ça, mais c'est une vraie question, parce que on voit qu'aujourd'hui, on peut créer des sociétés un peu partout, on voit qu'il y a une vraie mobilité sur les jeunes générations. Un pays vit quand même de ses TPE et de ses PME, c'est 92% du tissu économique en France. Cette question, elle est quelque part, elle est un peu politique d'ailleurs, parce que c'est de dire à quel moment on va libérer tout ça.
Il y a un sujet aussi, c'est que au niveau de l'attractivité du secteur aujourd'hui, alors je ne sais pas si tant que ça de jeunes veulent entreprendre, ils veulent faire des start-up dans le numérique. Moi, je suis dans l'industrie et c'est très dur de trouver des gens qui soient motivés déjà. Et puis, si c'était à refaire, il y a une chose que je regarderais, c'est souvent je me dis. Alors, quand tout va bien, c'est bien. T'y penses pas, l'autoroute sur laquelle tu roules. Mais quand tout va mal, tu te dis, bah, elle est où la porte de sortie, là ? Elle est où la sortie ? Et en fait, quand on entreprend, on n'en sort pas. Et ça, on n'en parle pas parce que les jeunes veulent entreprendre. Mais en fait, c'est un chemin de vie.
Ouais.
Aujourd'hui, si on cède nos entreprises, c'est très dur de trouver des acquéreurs. Il y a un peu de fonds parce qu'on les a valorisés. Aujourd'hui, nos entreprises sont un peu plus rentables, etc. Et en fait, alors je ne sais pas comment ça se passe dans le numérique, dans la nouvelle technologie, parce qu'il y a peut-être en effet des levées de fonds, etc. Mais quand tu entreprends dans une PME, une PME ou une TPE, tu n'es pas forcément attirant et ce n'est pas facile de sortir de l'autoroute.
Donc ça pose une autre question.
Ça fait partie des questions aussi qu'on doit se poser et qu'on ne se pose pas quand on entreprend parce qu'on crée. Donc on crée, on est super content, on avance. Et il y a un moment, on se dit, bah oui, mais j'avance, mais voilà, c'est la galère. Et comment je fais pour sortir ? Bah tu ne sors pas.
Donc finalement, ce que tu es en train de dire, c'est qu'à un moment donné, il faut peut-être, quand on crée un produit, savoir déjà à qui on va le vendre. Quand on crée une entreprise, à qui on la vendra.
C'est qu'à un moment donné, tu dois travailler à ce que ton projet puisse entrer dans un certain moule pour pouvoir attirer d'autres.
D'ailleurs, on le voit avec les problèmes de cession d'entreprise.
Et même si tu veux faire grossir ton entreprise, parce qu'on parle de cession, mais on parle aussi d'évolution de l'entreprise. L'évolution de l'entreprise, ça peut aussi passer par une absorption, ça peut passer par des fusions, par des rachats. Et si ton entreprise, il faut que tu penses à avoir un modèle d'entreprise qui soit suffisamment attirant ou pour pouvoir faire évoluer ton entreprise. Parce qu'on parle de l'IA, etc., mais on ne parle pas aussi du danger des gros groupes qui sont présents, qui prennent de plus en plus de place, des entreprises qui se font racheter par des groupes américains, par des fonds de pension. Et ça, les sociétés, les tout-petits, comme nous sommes, vont tendre à disparaître, au profit de et être absorbé par des gros groupes. Alors, je suis peut-être un petit peu négative.
Non, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir.
Ah bon ? Allez,
vas-y. Non, je pense tout le contraire. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura toujours des grands groupes, mais il va y avoir un certain nombre d'entreprises qui vont rester par le fait d'être présents. C'est-à-dire que je pense qu'un des nouveaux métiers de demain, ce sera des gens qui ont la capacité à parler avec d'autres gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une entreprise, si on a un problème, on appelle une autre entreprise et là, on peut tomber sur un serveur vocal avec quelqu'un qui ne nous rappelle jamais. Et donc, le nouveau métier de demain, c'est celui qui aura la connexion ou la capacité à régler ton problème alors que toi, tu n'y arrives pas ou tu vas mettre des jours ou des heures. Donc ça, c'est... Et puis, il y aura toujours sur les petites entreprises... une volonté, une agilité. Et il ne faut pas avoir peur des gros, c'est un autre sujet. Et sur le fait de vendre, et je reviens sur la lourdeur administrative, elle est là. Moi, j'ai 4 enfants. Les enfants, je leur conseille d'aller travailler par rapport à la lourdeur administrative de la France à l'étranger. Enfin, moi, c'est mon, ou, c'est mon
ou,
point de vue. C'est
ou ne pas forcément rester... d'entreprendre.
Non, ou alors. Non, parce que ouais, là, non, il y a une pression après sur les charges sociales telles qu'elles soient. Du coup, après, on va embêter les gens. Hein, ça va être technique, mais la réalité, c'est que on a une pression fiscale et sociale, que ce soit en tant que chef d'entreprise ou que ce soit en tant que salarié. Et donc, le sujet aujourd'hui, c'est plutôt d'aller créer ou vivre ou être salarié dans mais à l'étranger. En France, c'est pas que c'est mort, mais ça va être compliqué.
Et pourtant, quand on voit l'énergie qui est mise par BPI France, enfin, il y a beaucoup d'argent quand même qui est mis dans la volonté de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Et on comprend bien pourquoi, parce que ça crée des gens qui vont payer des impôts et qui vont développer de l'activité et de la valeur, a priori. Mais c'est vrai que ce vrai sujet aujourd'hui, il est ici ou ailleurs. Et ici, ça devient peut-être de plus en plus difficile. Mais on le voit notamment avec effectivement ces jeunes qui vont tenter leur chance un peu partout, et pas forcément dans des entreprises très complexes d'ailleurs. Comment vous l'avez vécu d'ailleurs, on va terminer un peu là-dessus, mais il y a eu le Covid et il y a eu le télétravail. Ça, ce qui finalement, on va un peu dans la suite de ce qu'on est en train de se dire, c'est-à-dire que finalement, le travail c'est une chose, l'activité c'en est une autre, il y a des activités non délocalisables, enfin a priori quand... voilà, donc ça c'est aussi peut-être une réflexion à mener, mais cette notion de télétravail où on voit qu'on peut aller travailler à l'autre bout du monde et finalement ne pas avoir beaucoup de monde autour de soi, comment vous avez eu c'était un sujet, une opportunité, ça a été compliqué le télétravail?
Moi j'ai pas mis le télétravail en place personnellement, les gens voulaient revenir à l'entreprise, donc on avait adapté les postes de travail pour que chacun soit là et on n'est pas venu on n'a pas opté du tout pour le télétravail parce qu'en effet, on est une petite structure et c'est une petite structure très humaine et on aime bien être ensemble, en fait.
Donc,
tout simplement.
Donc, le lien.
Pas de sujet. Non, je pense que le télétravail, c'est beaucoup d'isolement. Finalement, je ne remets pas en cause la qualité du travail des gens qui télétravaillent, mais je pense que ça crée de l'isolement, ça crée moins d'échanges, ça éloigne les personnes. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas pour.
Oui, après, je...
je suis... Non, sur le sujet du télétravail, moi je fais vraiment à la carte dans mon entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent venir au bureau et il y a des gens qui veulent rester chez eux. Et donc moi je pratique le à la carte. C'est-à-dire que quand j'ai un collaborateur ou une collaboratrice qui veut rester plutôt à la maison et qui se sent bien et qui produit du résultat sans venir au bureau, ben pour tout vous dire, j'économise un poste de travail physique, j'économise du déplacement. La personne, notamment j'ai un cas en région parisienne, la personne qui travaille depuis chez elle, eh ben, elle économise une heure et demie le matin, une heure et demie le soir, ce qui fait qu'elle travaille plus, pour tout vous dire, je gagne du coup plus d'argent et donc la vie est belle, quoi. Enfin, je veux dire, faut aussi voir ce que ça amène de négatif et de positif. Donc moi je fais à la carte et globalement je suis un amoureux.
Ça c'est une très bonne chose. Mais non, quand je parlais de télétravail, c'était aussi du travail à distance. Mais c'est vrai que le télétravail, il y a l'organisation du travail qui a été vécue post-Covid, mais il y a aussi cette façon de repenser le travail qui est aussi où il faut que vous évoluez. Et je trouve que c'est pas toujours simple quand on a une structure et qu'il faut un petit peu l'adapter à ses salariés plutôt que les salariés s'adaptent à la structure, ce qui était plutôt le cas avant.
Alors il est très clair qu'aujourd'hui c'est à nous de nous adapter. Il n'y a pas d'histoire, c'est nous qui nous adaptons aux collaborateurs. Et alors bon, j'ai différentes activités, en effet dans la restauration le présentiel est un peu obligatoire. En revanche côté agence, nous, mais ça je l'ai avant Covid, c'est... J'ai jamais fonctionné en calculant les horaires. Nous, on est en production de projet. Donc, en fait, le projet, il est produit ou il n'est pas produit. Oui, et en revanche, donc, il y a des équipes qui aussi, enfin, qui, il y a des jeunes mamans. Donc, en fait, on s'adapte à leur agenda de la semaine. Et elles créent aussi leur activité à travailler le soir quand l'enfant est couché et ainsi de suite. Est-ce que le projet est produit à la fin de semaine ou est-ce qu'il n'est pas produit? Quel l'effet à 6h du mat ou à 22h ou quel l'effet à 16h au bureau? En fait, on s'en fiche. En revanche, là où je te rejoins, c'est que c'est bien quand même qu'il y ait de la présence au bureau pour créer quand même de l'esprit d'équipe. Et donc, en fait, mécaniquement, quand aussi l'ambiance est bonne au bureau, en fait, les gens viennent au bureau aussi par eux-mêmes, en fait. Et sur certains projets aussi, quand on prépare des grands dossiers, on est obligé d'avoir des synchronisations professionnelles en live. Mais nous, on est très libre côté agence. Et côté restaurant et côté palais, en effet, on est, tout le monde est en présentiel. Quoi.
Et puis enfin, peut-être un point aussi, là c'est, je parle sous couvert du savoir-faire de notre invité spécialiste de la RH, mais ça permet aussi d'élargir le champ des compétences un peu plus loin que la compétence géographique territoriale qu'on a autour de soi. On peut aller chercher de la compétence ailleurs. Je ne sais pas si ça marche vraiment, mais...
Ça marche complètement. Il faut vraiment que l'entreprise s'adapte. Il y a des métiers sur lesquels, effectivement, on ne peut pas délocaliser. En agriculture, par exemple. Okay, la terre, elle est là. Les animaux sont là. Donc, vous êtes obligé de produire là. Et après, dans toutes les activités de services de tertiaire, d'informatique, là, c'est facile de dire tout le monde doit être physiquement au bureau et où on peut avoir des gens à l'extérieur. Et effectivement, dans la difficulté que nous avons de temps en temps de trouver des bonnes collaboratrices ou des bons collaborateurs, bah si on a un bon collaborateur qui est loin et qu'on le fait télétravailler, j'ai envie de dire, c'est super. Donc, il faut vraiment que tout le monde... il faut que nous, les entrepreneurs expérimentés, on fasse avec les nouvelles techniques et ce qui se passe et ce dont ont envie les jeunes, quoi. S'ils ont envie de travailler en short ou avec une certaine décontraction au niveau vestimentaire qui reste chez eux, c'est pas grave tant que le travail est fait. C'est le sujet, il faut que le travail soit fait en temps et en heure. Hein, il faut que le travail soit rendu vis-à-vis du client surtout. Hein. Enfin, celui qui nous fait, faut pas oublier, on l'a pas dit, mais celui qui nous fait manger ou qui nous
nourrit,
accessoirement, c'est le client. Et donc, moi, j'ai des collaborateurs ou collaboratrices qui de temps en temps disent, je voulais télétravailler. J'ai dit, oui, ok, mais si tout le monde télétravaille, qui répond quand il y a plusieurs lignes qui sonnent, qui répond physiquement? Alors après, on fait du renvoi d'appel, on invente tout un tas de trucs, mais parfois, physiquement, il y a des gens qui veulent vous voir physiquement aussi. Donc, si tout le monde était en télétravail, c'est compliqué. Donc, je dis pas qu'il faut être cool, mais je le dis quand même. Il faut s'adapter surtout. Il faut s'adapter à l'environnement tel qu'il est, avec les collaborateurs, les clients, les fournisseurs. Moi, il y a des fournisseurs qui, de temps en temps, me prospectent, qui veulent me vendre des choses et ils veulent tout faire en visio. Alors, je leur dis, oui, pourquoi pas. Mais la réalité, c'est si je vous fais un gros chèque, vous allez venir à mon bureau. Et du coup, et tous ceux qui disent, je viens pas, j'ai dit, tant pis, venez pas, mais je vous achèterai rien. Et donc, ça m'arrive aussi de dire, je vais vous acheter. Parfois, on achète des solutions, je sais pas, il y en a pour 50 000 euros ou 100 000 euros. Quand je fais un chèque de 50 000 euros ou de 100 000 euros, je veux avoir la personne en face de moi.
C'est ce que disait Fabrice un peu, justement, avec la reconsidération des métiers commerciaux. Ça va même un peu plus loin, c'est l'humain. C'est de repenser des activités, quel que soit le secteur d'activité dans l'entreprise et l'entrepreneuriat, qui, à un moment donné, fédère quand même de l'humain.
Juste sur l'aspect fournisseur, par exemple, au niveau local, il y a des gens à qui je passe des commandes et je leur dis, mais je te passe commande à toi parce que je sais où tu habites. Et donc, si je passe commande aujourd'hui, tout se passe bien, mais s'il y a un problème, je viens chez toi.
Voilà, là, il n'était pas question qu'on bascule vers la mafia. Et... bon, on a, en tout cas, on va clore cet échange. Je voulais vous remercier tous les quatre de vous être prêtés à ce jeu. J'espère que vous, qui êtes confortablement assis chez vous, avez apprécié la qualité de nos échanges. Je remercie Anne. Merci d'être venue, Anne.
Merci à toi, Raphaël. Merci, Benjamin. Pour l'invitation.
Merci,
merci Hervé, merci,
merci aux équipes
Fabrice.
Techniques.
Ah ouais, on a un très gros studio.
À l'équipe de Radio Girafe, Guillaume, Frédéric et Raphaël.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser sur notre forum. Ou sinon, maintenant que vous connaissez bien ces entrepreneurs, n'hésitez pas à les contacter si vous avez des projets, si vous voulez être accompagné, puisqu'ils seront aussi là pour vous épauler dans vos réseaux et dans vos aventures. Un grand merci à tous et on se retrouve sur Radio Girafe pour de nouvelles aventures le mois prochain au Garden.
Septembre.
Ah ouais, on est déjà en juin. Donc on se retrouve début septembre donc au Hilton Garden Inn Le Havre pour notre rendez-vous qui sera sur les associations, je crois. Sur le tourisme. Donc on se retrouve. Donc là, j'étais bien. Donc c'est pas en juin, c'est en septembre. C'est pas les associations, c'est le tourisme. Est-ce que tout le monde a bien compris ?
C'est 5 minutes qui te tue, là.
Voilà. Voilà. Ça s'était bien passé jusqu'à présent.
Tout allait bien.
Donc on se retrouve au mois de septembre. Merci à tous et une bonne soirée.